Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes en direct de Radio Galère au 88.4 et comme tous les mercredis à 19h, vous écoutez l'émission de La Forêt des Possibles. Une émission qui sera rediffusée demain à 9h et disponible sur Spotify pour les amateurs et amatrices de podcasts. Semaine après semaine, La Forêt des Possibles reçoit à son micro celles et ceux qui font les transitions de Marseille et de ses environs. Et durant une heure, nous allons découvrir ensemble le projet inspirant et engageant de nos invités. En découvrant leurs projets et leurs activités, nous tissons des liens entre les initiatives du territoire. Seuls, ils seraient comme des arbres isolés. Ensemble, ils forment une grande forêt qui chaque jour s'enracine, pousse, donne du fruit et montre la voie d'une société résiliente et solidaire. Chères auditrices, chers auditeurs, l'émission de La Forêt des Possibles est une grande invitation. Nous pensons que vous aussi, vous avez votre juste place à prendre, du moi au nous et du nous au tout, dans une société qui respecte les besoins humains et les ressources de la planète. À ce micro, nos invités témoignent qu'il est possible de bâtir collectivement le monde de demain. Je m'appelle Claire Maillot et c'est la 20e émission de La Forêt des Possibles que je prépare et que j'anime. Cela fait maintenant 2 ans que chaque émission est l'occasion pour moi de rencontrer, de découvrir, d'apprendre et de m'enrichir. Et c'est incontestable, La Forêt des Possibles a eu un grand impact dans ma vie. Ce soir, cette émission aura une saveur un peu particulière puisqu'elle sera pour moi la dernière. Et donc c'était un plaisir pour moi d'animer aux côtés de Elissa, présente ce soir en régie, de Marin, de Jeanne, de Mathieu, de Félix et de Hugo, ainsi que de Sidi, toutes ces émissions qui ont fait passer 2 ans au sein du projet de La Forêt des Possibles. Mais ce soir, c'est une émission qui me tient particulièrement à cœur, puisque nous avons le plaisir de recevoir l'équipe du Cabanon Vertical en la personne de Elsa.
Bonjour.
Et d'Adèle.
Bonsoir.
Je n'ai pas précisé vos noms de famille d'ailleurs, Elsa Goujon et Adèle Viro. Eh bien, bienvenue à vous. Je vous propose de commencer cette émission comme on a l'habitude de faire, du moi au nous, c'est-à-dire de commencer par vous présenter vous individuellement en tant qu'humaine. Et ensuite, on parlera un peu plus en détail de ce que c'est le Cabanon Vertical. À qui l'honneur ?
Bon, je vais démarrer. Je m'appelle Adèle Viro. Je suis chargée de projet au Cabanon Vertical depuis maintenant 3 ans. Et mon parcours est pas très fourni, mais j'ai un bagage d'architecte puisque j'ai fait des études d'architecture en région parisienne. Disons que rapidement, je me suis intéressée à tout ce qui était participation dans l'aménagement urbain et dans les projets d'architecture. Donc j'ai un peu cherché à découvrir des outils, des manières d'impliquer des publics à l'école d'abord, auprès des différents enseignants et enseignantes. Et en fait, rapidement, j'ai un peu fait le tour parce que c'était pas assez fort, en tout cas à l'époque, à l'école dans laquelle j'étais. Et j'ai dû faire une année de césure pour aller faire des petits stages et essayer de vraiment me former en fait, à la concertation, par exemple, appliquée aux projets urbains. Et après, je suis arrivée au Cabanon Vertical à Marseille.
Et les stages que tu as trouvés pour justement te former à la concertation, c'était auprès d'agences aussi ou bien plus des agences de concertation à part entière ?
Je pensais à l'époque que j'allais quand même rester dans le domaine de l'architecture, donc je m'étais vraiment tournée vers les agences d'archi qui pouvaient avoir un peu la double casquette. Et j'en avais trouvé une à Bordeaux qui travaillait sur des projets d'archi et des projets aussi concertés sur par exemple des programmations d'espaces publics ou des choses comme ça. Et donc j'ai fait 8 mois avec la compagnie architecture, ça s'appelle. Et ensuite je suis partie en Allemagne faire 4 mois pour compléter sur un projet un peu plus fou de préfiguration urbaine à Hambourg.
Ok. Et tu ne l'as pas précisé, je ne sais pas si tu souhaites en parler ou pas, mais je trouve que c'est assez révélateur dans ton parcours que tu es très investie dans le vélo aussi.
C'est vrai que je ne mélange pas souvent les casquettes, mais à Marseille, je suis investie dans une autre association qui s'appelle Cyclotopia. Et c'est un peu une deuxième manière pour moi de m'investir pour améliorer la qualité de l'espace public, notamment sur la question des mobilités. Nous, on approche plutôt... le côté comment on peut se déplacer dans son quotidien de manière inclusive et on a le prisme du vélo.
Oui, du coup, j'imagine que pour l'asso Cyclotopia, avoir une architecte spécialisée sur les questions d'aménagement urbain, c'est très précieux d'avoir un regard expert sur ces sujets-là. C'est complémentaire.
Oui, je pense.
Ok, merci. Et donc, à toi, Elsa.
Bah, moi, je suis Elsa, je suis chargée de projet aux cabanes verticales, comme Adèle, depuis un an et demi. J'ai un parcours un peu similaire où j'ai fait mes études d'architecture à l'école de Nantes. Pour le coup, à l'école de Nantes, c'est des questions qui reviennent assez, qui sont très portées par les enseignants de concertation, participation et tout ça. Donc, c'est des choses qui ont été éveillées chez moi assez tôt dans mes études. Et je pense qu'au fur et à mesure, ce qui m'a un peu plus intéressée, c'est la question de la petite échelle et des micros aménagements sur laquelle je me sentais aussi plus à l'aise de réfléchir et de concevoir des projets. Et du coup, c'est un peu par là que j'ai essayé d'orienter après mes stages et mes expériences. Et du coup, j'ai l'impression qu'au Cabanon, c'est aussi ça que ça permet de travailler à la fois à l'échelle très large d'un quartier ou de la ville et d'aménagement urbain, et d'aller jusqu'à l'échelle beaucoup plus détaillée et microscopique du détail d'un assemblage d'un mobilier.
Ok. Et donc, quand tu parles justement d'échelle relativement petite, c'est en opposition à des grands programmes, type par exemple, on parlait d'un programme qui s'appelle Euromed à Marseille. Ça, à cette échelle-là que justement tu fais le distinguo entre des.
Moi, c'est une échelle qui est beaucoup plus compréhensible dans mon esprit que des grands projets urbains qui durent aussi des années et qui sont beaucoup plus difficilement palpables, selon moi.
Ok, donc vous l'aurez compris, ce soir nous allons parler d'aménagement urbain, d'urbanisme et d'architecture avec le Cabanon Vertical. Et pour présenter le Cabanon, son histoire, qu'est-ce que c'est, nous avons à l'antenne, au standard, son fondateur, Olivier Bedu. Alors, Elissa en régie. Alors Olivier, est-ce que tu nous entends ?
Oui. Bonsoir.
Bonsoir Olivier, comment ça va ?
Ça va très bien, et toi Claire ?
Très bien, ravie de t'avoir au téléphone, c'est une grande première pour moi à la Forêt des Possibles d'avoir quelqu'un en ligne comme ça, donc ça me fait très plaisir que ce soit toi. Alors est-ce que tu peux nous parler du Cabanon Vertical, comment cette association est née et on voudrait avoir l'histoire du Cabanon.
Alors le Cabanon Vertical, donc c'est une association qui a été créée en 2002 suite à un projet que j'ai réalisé avec le cofondateur de l'association qui s'appelle Christian Geschwinderman, qui s'appelait le Cabanon Vertical. C'était une installation qu'on a réalisée à Sainte-Marthe au moment d'un festival qui s'appelait l'Art des Lieux, organisé par l'association Arène. Et il y avait sur ce lieu une barre HLM jamais terminée. Et on y a construit une cabane sur la façade, un peu comme une proposition d'extension, d'appropriation de ces architectures un peu monumentales. Et suite à ça, pendant une dizaine d'années, d'autres personnes sont venues un peu s'associer à nous pour des projets un petit peu plutôt artistiques et qui se faisaient un peu dans un cadre non professionnel, en tout cas de recherche dans nos temps, hors de nos temps de travail en fait. Et plus tard, en 2013, au moment de la capitale européenne de la culture, on a commencé à avoir des projets un peu plus ambitieux, notamment sur un quartier de Salon de Provence au Canourgues, où on a fait une démarche assez importante avec aussi la Fondation de France et le programme des nouveaux commanditaires. Et de fil en aiguille, on en est arrivé à des projets plus importants et une professionnalisation. Voilà, en quelques mots sur l'histoire de ces 22-23 ans d'existence de Cabanon Vertical.
Ok, merci beaucoup Olivier pour remettre tout ça dans son contexte. Et donc moi là, du coup, ce que je me demande, je trouve que c'est hyper intéressant de voir comment un projet qui était à la base plutôt, de loisirs, c'est quelque chose qui a été monté avec des amis, des performances artistiques, enfin plutôt installation artistique que performance, et de voir comment ensuite vous êtes professionnalisé pour aujourd'hui être une équipe assez conséquente. Vous êtes combien aujourd'hui au Cabanon? Est-ce que Olivier, ça te va si on te remercie chaleureusement en tout cas.
Voilà. Mais en tout cas, juste par rapport à ce que tu disais, effectivement, de la dimension empirique de faire en avançant, c'est un peu une manière de construire encore aujourd'hui nos projets. Donc, et Adèle et Elsa vous raconteront tout ça avec détail. Merci beaucoup.
Merci à toi, Olivier.
Au revoir.
Alors, du coup, ma question, c'est de savoir combien vous étiez aujourd'hui au sein du Cabanon Vertical.
Aujourd'hui, on est 12.
OK. Et répartis, du coup, entre les bureaux.
C'est ça. C'est un peu la particularité, je dirais, qu'a le Cabanon aussi. C'est qu'on est une équipe où on a plusieurs compétences et plusieurs casquettes différentes. Donc, il y a à la fois... Donc, nous, on est architecte avec Adèle, mais on a des collègues qui sont menuisières, menuisiers et qui travaillent plutôt dans la partie atelier de production. Et donc, tout ça, ça fait qu'on est aujourd'hui 12 répartis à peu près équitablement, quoi. Okay. Entre la partie bureau conception et la partie fabrication à l'atelier.
Et donc les bureaux sont situés à la Cité des Transitions, oui. Dans Marseille, un endroit qu'on connaît bien. Et les ateliers, ils sont situés
Ils sont situés boulevard de Plombières, c'est dans le 14e.
Ok. Et est-ce que ça, c'est un intérêt pour vous, en tant que, pour vos projets, le fait d'avoir un ancrage dans le 14e arrondissement ou pas particulièrement?
Pas forcément. Je dirais qu'on a toujours eu l'habitude de rayonner un peu, finalement, pas mal dans les quartiers nord. Mais dans tous les cas, on avait besoin d'un espace avec... avec du stockage, avec de quoi pouvoir garer des véhicules et pouvoir aussi travailler, qu'ils soient confortables. Et aujourd'hui, à Marseille, c'est aussi un peu en repoussant les limites du centre qu'on peut trouver ces espaces-là.
Mmh. Ok. D'accord. Et alors, du coup, dans tout ça, on n'est même pas allé dans le détail de qu'est-ce que vous faites au Cabanon Vertical et qu'est-ce qui fait la spécialité de cette agence d'urbanisme. Est-ce que vous voulez nous expliquer avec vos mots
C'est vrai qu'Olivier parlait tout à l'heure de professionnalisation. Disons qu'aujourd'hui, nos missions consistent à mettre en place des processus d'aménagement qui sont expérimentales. Donc on va parler d'urbanisme participatif parce que nous, à chaque étape de notre travail, on va essayer d'impliquer les usagers qui sont concernés par le projet sur lequel on intervient. Ça peut être dès la conception jusqu'à la réalisation. On va aussi parler d'urbanisme tactique, des missions où là on va plutôt viser à tester des choses de manière rapide, par exemple arriver sur un espace et pouvoir très rapidement impulser de nouveaux usages, de nouvelles dynamiques à travers un projet d'aménagement tactique. Et on a un dernier cadre qui est celui aussi qui est de plus en plus présent dans les marchés publics aujourd'hui auxquels on répond, c'est l'idée d'urbanisme transitoire. Donc c'est de pouvoir avoir une phase en amont d'un projet de renouvellement, de tester en fait, de préfigurer presque l'espace en transformation et de pouvoir ajuster derrière le projet qui va arriver pour être sûr qu'il va correspondre aux envies, aux besoins et aux dynamiques locales.
Ok, d'accord. Alors, il y a eu beaucoup d'éléments avec en plus un jargon que je reconnais en étant propre à un peu le milieu des architectes. Du coup, tu as parlé d'urbanisme participatif, d'urbanisme tactique et d'urbanisme transitoire. Pour que ce soit bien clair pour nos auditeurs et auditrices, est-ce qu'on peut revenir dessus? Donc, participatif.
Participatif, je dirais que c'est l'ADN de notre structure. C'est vraiment impliquer les gens dans la fabrication des espaces publics. Et nous, donc vraiment, dans nos projets, on les implique à chaque étape.
Ok, donc c'est d'aller aller à leur rencontre et connaître quelles sont leurs envies, leurs attentes, qu'ils puissent s'exprimer.
Exactement.
Ok, l'urbanisme tactique.
Tactique, c'est l'idée de proposer des mobiliers, par exemple, sur un espace pour pouvoir tester de nouveaux usages. Souvent, on a des projets, par exemple, de rue des enfants. En fait, une rue, ça va être une chaussée des trottoirs. Et si on la ferme, comment est-ce qu'on peut rapidement arriver à imaginer de nouveaux usages? On a besoin d'un support et c'est là que nos projets ont une nature tactique, c'est qu'ils permettent de créer des nouvelles dynamiques très rapidement.
Ok, donc le côté tactique, ça va être quand on va chercher à créer des usages et à expérimenter des nouvelles choses sur une zone donnée?
C'est à peu près ça.
À peu près, d'accord. C'est vrai qu'il est un peu complexe à comprendre celui-ci. Et donc l'urbanisme transitoire?
Et le transitoire, la différence, en fait, c'est du tactique qui ne va pas forcément avoir d'après. Enfin, on ne sait pas ce qui se passe après. Le transitoire, c'est prévu. C'est-à-dire qu'il y a un projet définitif qui est prévu derrière. Et du coup, notre intervention va avoir un impact sur ce projet derrière.
D'accord.
On est comme une première étape, un peu une première pierre.
Ok, c'est-à-dire qu'il va y avoir un projet de réhabilitation d'une place, par exemple, d'aménagement. Et en attendant que le projet final soit livré, on va pouvoir proposer un aménagement temporaire, éphémère.
Et tester des choses qui pourront être gardées ou pas dans un projet définitif.
Ok. Est-ce que, Elsa, tu vois des choses à ajouter sur tout ça?
Non, c'est très bien, très bien expliqué. Pour moi, le tactique, c'est aussi le fait que ce soit rapide, rapide à mettre en place et rapide à expérimenter. Et ce qui diffère d'un projet de réaménagement urbain classique.
Et qui peut être flexible aussi, du coup, qui peut s'adapter en fonction, enfin évoluer au fur et à mesure.
Oui, c'est ça. Et qu'il puisse y avoir effectivement un retour en arrière, mais si on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on peut essayer autre chose, le déplacer ou le modifier.
Ok, d'accord. Ah, merci pour ces apports. ok, et alors justement, en parlant de tactique, il me semble qu'il y a un gros projet marseillais qui intègre ces méthodes, qui s'appelle Urbanisme Tactique Marseille. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce dont il s'agit?
Oui, je peux vous en parler. C'est un projet qu'on a actuellement avec la ville de Marseille. Du coup, en 2024, la ville a lancé un marché donc d'urbanisme tactique. Et l'objectif, c'est d'améliorer assez rapidement des espaces publics sur Marseille. Et ça se fait au travers de deux types de programmes qui sont un peu expérimentaux. Donc il y a ce qui est appelé rue des enfants. Donc comme Adèle vous disait, l'idée c'est de fermer une rue devant des écoles plutôt voitures pour empêcher les voitures de passer. Et du coup en fermant aux véhicules, de voir effectivement qu'est-ce que ça donne, quels usages on peut retrouver dans cette rue, et aussi de retrouver des usages à la sortie d'école, sécuriser les abords, pouvoir attendre à l'entrée et la sortie des classes, et également tout ce que ça peut amener comme type d'autres usages sur des moments hors école, donc par exemple le week-end ou dans la journée, ou est-ce que des gens viennent pourraient s'y installer ou des choses comme ça. Donc ça c'est plutôt pour la partie rue des enfants. Et il y a un autre programme qui est Prenez Place, et donc là c'est plutôt sur des places dans Marseille, plutôt des petites places. Et l'idée, c'est de retrouver des lieux de convivialité dans ces noyaux villageois, ce qui est appelé noyaux villageois. Donc, c'est des petites places au cœur de quartier où on retrouve quand même des commerces. Il y a déjà une vie de quartier, mais l'idée, c'est d'accompagner ces usages. Et donc, nous, on intervient sur ces deux types de programmes, donc sur différents endroits à Marseille. C'est la ville qui nous missionne en nous donnant un lieu. Et ensuite, à travers de ce lieu, on va avoir une méthodologie pour faire participer les publics.
Ok. Et alors, avant d'aller dans le détail sur votre méthode pour réaménager ces rues aux enfants, rue des enfants et ces places, est-ce que tu peux nous donner un peu des exemples où est-ce que ça se situe pour que ça puisse parler à nos auditeurs et auditrices? Peut-être qu'il y a des choses qui se passent juste à côté de chez eux.
Alors, pour les rues des enfants, on est intervenu rue de Friedland, qui est vraiment dans le centre, près de la place Castellane. On est intervenu aussi beaucoup plus loin, par exemple à l'Estac, sur l'impasse Raphaël, ou à nouveau dans le centre rue Gilibert, qui se trouve là dans le 4e. Donc c'est un peu partout pour les rues des enfants. Et prenez place. Y avait une place dans le 14e, donc pas très loin justement de nos ateliers, qui est la place Dalmas. Une dans le 15e à la Viste. Une autre à la Rose, par exemple. Donc c'est un peu dans tout Marseille. Et là, on travaille donc sur la place des Chartreux, qui est aussi un peu plus centrale.
Ok. Et donc, en tout, ça fait combien de sites si on prend Prenez Place et Rue des Enfants combinés?
10.
Ok.
Une dizaine. Une dizaine.
Ok. Et alors, du coup, ce qui m'interroge, c'est que le logo Prenez Place, moi, je l'ai déjà vu, notamment Place Sébastopol, ou là, récemment, devant le parvis de l'église à Notre-Dame-du-Mont. Mais il me semble que ce n'est pas vous qui opérez. Alors, du coup, ça veut dire qu'il y a plusieurs agences comme la vôtre, comme le Cabanon Vertical, qui ont été missionnées dans le cadre de ce programme?
En fait, c'est la ville de Marseille qui pilote ce programme. Donc, c'est eux qui choisissent un petit peu les équipes qui veulent missionner ou même la forme aussi d'intervention qu'ils aimeraient avoir sur certaines places, par exemple. Donc, je sais qu'à Sébastopol, ils avaient fait un marché public pour la place Sébastopol. Donc, ça, c'était l'équipe des Martiens qui avait répondu et qui avait gagné le marché. Il y a eu Notre-Dame-du-Mont, c'est eux-mêmes. C'est leur régie en interne, il me semble.
OK.
Et le dernier, c'était...
Non, c'est les deux seuls que j'ai identifiés. Ouais, le petit logo Prenez Place, je l'ai remarqué.
Il y en avait un à Belzunce, si je ne m'abuse.
Ah oui, sur la place de la Providence. En fait, le Prenez Place pour la ville de Marseille, ça a double sens. Soit ils confient à une équipe la mission un petit peu de réaliser un projet d'urbanisme tactique ou transitoire pour l'aménager. Et après, il y a aussi un deuxième volet qui est animation. Et eux-mêmes, par exemple, je sais qu'à Belzunce, la mairie de secteur, elle pilote pas mal. Elle a missionné la régie de quartier de Noailles-Belzunce pour pouvoir animer l'espace dans ce cadre-là.
Ok. Ouais, donc c'est plusieurs acteurs qui rentrent en compte sur le programme Prenez Place qui est à l'initiative donc de la ville de Marseille. Mais en vrai, le programme est tellement bien que tant mieux en fait. Enfin, j'imagine que de prime abord, on pourrait se dire qu'il y a concurrence entre les agences et les acteurs qui s'occupent de réaménagement de place. Mais plus il y a de projets, plus il y a de demandes et plus on a des espaces urbains qui sont agréables et apaisés, tant mieux, tant mieux.
Oui, carrément.
Et alors, du coup, est-ce que Elsa, tu veux continuer pour nous présenter un peu la méthodologie que vous appliquez sur ces projets d'urbanisme tactique?
Oui. Ouais. Dans ce cadre-là, on a toujours trois ateliers qui sont demandés. Et donc, on a mis en place un peu une méthodologie pour chacun de ces ateliers. C'est des ateliers participatifs, histoire de rencontrer les publics et de pouvoir rencontrer les acteurs et actrices de chaque quartier. Et donc, on a toujours ces trois ateliers. Un premier atelier qui est plutôt un format bureau de rue. Donc, ce qu'on appelle un bureau de rue, on se rend sur soit à la place, soit dans la rue qui va être réaménagée. Et donc, on fait une première rencontre avec les différents publics. L'idée, c'est aussi d'informer sur la démarche, parce que ce n'est pas forcément habituel pour les habitants.
Et est-ce que ce sont des personnes qui passent, des passants, des passantes, ou bien il y a eu un rendez-vous de données, on leur a dit à tel jour, telle heure, rendez-vous à tel endroit pour pouvoir vous exprimer sur vos attentes?
Un peu les deux, c'est toujours la question de la communication, elle est toujours un peu difficile de savoir comment on va réussir à diffuser l'information suffisamment largement pour que tout le monde puisse la voir. Donc c'est à la fois des gens qui ont été prévenus, on essaye aussi d'envoyer des emails aux structures locales, notamment aux centres sociaux, s'il y en a dans le quartier, ou aux écoles, si c'est possible, qui mettent un mot dans les cahiers aussi pour les parents. Donc on essaye de diversifier tous les moyens de communication, mais ce n'est pas forcément évident. Mmh. Et donc c'est aussi l'occasion de rencontrer les personnes qui passent, donc les habitants qu'on n'a pas forcément pu toucher, ou les gens qui passent par là et qui seraient aussi intéressés dans leur trajet quotidien. Quoi.
Oui, et qui sont peut-être les plus à même de passer sur cette oui. place à nouveau, en fait, si ce sont les passants que vous croisez sur le moment.
Ouais, c'est ça. Du coup, ce format bureau de rue sert aussi à informer de la démarche un maximum de public. Mmh. Voilà, ensuite, on essaie de faire des ateliers plutôt orientés sur de la co-conception. Donc, c'est une fois ce premier temps d'atelier où on a un peu compris les enjeux, c'est plutôt comme un diagnostic de l'espace. On comprend un peu les enjeux, les contraintes, etc. Le deuxième temps, c'est plutôt de réfléchir sur une conception de mobilier. Et donc ça, on travaille avec plusieurs types d'outils. On a d'abord fait ça sous forme de collage. Et en fait, on s'est rendu compte avec le temps que...
Excuse-moi, mais collage, du coup, c'est quoi ? C'est des feuilles qu'on vient coller ou bien c'est des petites maquettes
On a expérimenté des formes en papier qui représentent plutôt des hauteurs. On travaille plutôt... sur les hauteurs et les espaces de rue.
D'accord, ok. Donc, c'est du 2D, ouais. Mais ça vient un peu faire comme si c'était en 3D.
C'est ça. Ouais, enfin, c'est ça.
C'est à plat, mais ça vient mettre une petite perspective. Ok, je vois très bien le genre.
Pour essayer justement de proposer aux personnes qui participent à ces ateliers de se mettre dans la peau de la conception, mais à l'aide d'outils quand même qui facilitent. Donc, en se repérant par rapport à des hauteurs qui existent, donc des tables, des hauteurs d'assises, etc. Et en les assemblant, l'idée, c'est aussi que chacun et chacune puisse réfléchir à quels usages il pourrait faire dans cette rue ou sur cette place. Et au fur et à mesure du temps, on a un peu développé d'autres manières ou d'autres outils. Donc, par exemple, la maquette, qui est un outil qui fonctionne bien. Mmh. Et donc là, on a essayé de faire une maquette à l'échelle Playmobil. Parce que c'est une échelle qui parle à tout le monde, autant aux enfants que
à leurs parents,
qu'aux adultes. Et du coup, par cette maquette, on peut passer justement de ce 2D collage à une version plus 3D et qui est beaucoup plus simple pour se projeter dans l'espace.
Et plus ludique aussi, j'imagine, oui. À manipuler, ouais.
Bah oui, ça c'est vraiment accessible à tous les âges.
Ok. Eh ben super, c'est hyper intéressant d'en savoir plus sur la méthodologie que vous déployez sur ces places. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'au final, on n'a pas vraiment abordé la question de à quoi ça ressemble une place après votre passage. Là, on a parlé de mobilier, on a parlé d'ateliers participatifs, de places, etc. Mais je ne sais pas si nos auditeurs et auditrices arrivent vraiment à se projeter sur à quoi ça ressemble. Mais je vous propose qu'on en parle après la pause musicale. Ça va être le moment donc d'écouter la musique, pas l'extrait sonore, la musique que vous avez choisie. Qui pour nous la présenter ?
C'est une musique qui parle de la ville de Marseille et de l'urbanisme de la ville de Marseille. Qui a été écrite en 2012, il me semble, et en fait, qui est encore très d'actualité aujourd'hui.
Et de l'artiste étant
Kenny Arcana.
C'est parti.
MARSEI 2LE est à la une. Je reconnais plus ma ville, je ne reconnais plus ma rue. Où est mon centre-ville, celui d'avant a disparu. QNQSCV à tous ces enfants de la rue. À nos rues indomptées, génération du crabule. Ma ville entière a sombré, soumise, ombrée. Pour en faire une belle ville de la côte d'Azur. Marseille City en chantier, dernier coup de massue. En faveur de leur modèle, des dossiers sous leur cocktail. Grotesque à l'heure où mes frères saluent. Pendant qu'ils construisent leurs hôtels, plus belle est ma ville que dans vos têtes. Marseille refaite à notre insu. Petit délimange, longue peine, au gommette ou à l'une. Pour pas grand chose dorénavant, on te fracture. Qu'est-ce qu'est devenue la Joliette après expulsion par centaines, certainement parce qu'on Marseille, capitale de la rupture. Capitale de la rupture. Aux colons de la belle cité de Fossé, tous leurs plans ne sont qu'à l'opposé de la tradition, de l'esprit de la ville millénaire qui a toujours rassemblé les communautés. Terre d'accueil ouvert à l'autre, rebelle au roi, terre d'asile des apôtres. Commence à la porte de l'Orient, élu capitale de la culture. MARSEI2LE est à la une. Je reconnais plus ma ville, paraît qu'elle est devenue bien une. Chaque des cultures, 2013, prix de vitesse, flic et caméra à chaque coin de rue. Expulsé pour du business, compte ce qui reste. Esprit démoli comme ces murs qu'on a toujours tenus. Alors je dédicace les petites teignes anti-système. Ou pire, qu'est-ce que les miens vont devenir? Nos rues se remplissent de tristesse. Un genre d'apartheid se dessine. Ma zone n'était pas que l'ivresse. La camaraderie, la vraie, la joie, y'avait pas de carabine. Car la gymnase, ici la jeunesse est en péril. Rien n'est fait pour elle et ça c'est vrai depuis des piges. Entassé dans des blocs, la celle ici c'est dans le chine. Plus de place dans les réseaux, donc ça tire dans le vif. Refont nos quartiers et nous virent. Pendant que la misère s'accroît, tranquille se pavane les touristes. Pendant que mes frères sont au placard, partout les caméras nous fixent. Pour mieux aseptiser chaque place et l'identité de la ville. Marseille, capitale de la rupture.
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes en direct de Radio Galère au 88.4 et vous écoutez l'émission de la Forêt des Possibles. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir le Cabanon Vertical avec Elsa et Adèle. Et en première partie d'émission, donc on a présenté cette agence d'urbanisme tactique, transitoire et participatif et on était en train de parler d'un projet qui s'appelle Urbanisme Tactique Marseille où plusieurs places marseillaises et des rues aux abords des écoles primaires sont réhabilitées par le Cabanon Vertical. Donc Elsa, tu étais en train de nous présenter les différentes méthodologies que vous avez mis en place. Donc il y a donc les bureaux de rue, les maquettes, notamment celle à l'échelle Playmobil, et il y a un troisième outil que vous avez à disposition.
Oui, c'est ça. Pour la suite, il y a donc un troisième atelier où, à partir des deux premiers ateliers où on a rencontré les différents publics et où on a pu travailler ensemble à la conception des aménagements, le troisième atelier est dédié à la discussion autour d'une esquisse. Donc nous, on produit un premier dessin, une première proposition de mobilier qu'on va venir rediscuter avec les habitants.
Ok, donc si j'ai bien compris, vous faites une sorte de... Enfin, vous retranscrivez sur un visuel ce qui est sorti des premiers ateliers et vous venez un peu le valider avec eux ?
Oui, c'est ça. On vient le discuter, voir si ça leur convient, s'il y a des améliorations à faire et valider surtout les emplacements.
Ok. Ah, d'accord. Donc connaître quel mobilier va aller à quel niveau sur la place en fonction de leurs usages.
Ouais, c'est ça.
Ok. Et alors, du coup, on commence un peu mieux à se projeter sur à quoi ressemble un projet réalisé par le Cabanon Vertical. Est-ce que, Adèle, tu peux enrichir les imaginaires de nos auditeurs et auditrices ?
Pour imaginer un petit peu nos projets, il faut se mettre aussi dans le matériau. Donc on travaille le bois, un petit peu le métal, alors pas sur ce projet d'urba tactique, mais sur d'autres. On est sur des structures assez faciles à construire, qui ne nécessitent pas forcément de fondation. Donc c'est des petits éléments assez organiques, dans le sens où on va éviter de rentrer dans un cliché de la table de pique-nique qui va avoir un seul usage presque. On va essayer de travailler sur des structures avec un design plus ouvert et de vraiment imaginer que le mobilier qu'on va proposer à un endroit, il peut en fait avoir plusieurs vies selon la journée, la semaine. Il peut servir de pause goûter, mais de partie d'échec. Et c'est un peu ça qu'on travaille sur ces espaces-là.
Il me semble que l'idée du design ouvert, c'est d'avoir plusieurs façons de s'asseoir, de s'allonger, de s'attabler sur un mobilier. Ouais. C'est qu'il n'y a pas juste une seule façon de s'asseoir dessus, comme une chaise, où là, on sait comment on doit s'asseoir sur une chaise. Là, justement, les mobiliers sont très libres d'interprétation.
C'est ça, c'est aussi pour laisser la place à tout le monde de s'approprier le mobilier et d'avoir envie de s'asseoir à sa manière, exactement comme tu viens de l'expliquer, ou de manger, si on veut manger avachi, avec son plat sur les genoux. En fait, c'est possible aussi. Et nos mobiliers le permettent, n'indiquent pas une seule manière de les utiliser. Mais on est aussi, par exemple, sur le projet Herbatactique, accompagné de Jaune Sardine, qui va venir travailler aussi de l'habillage graphique. Donc, on peut retrouver de la couleur au sol, des peintures au sol, des panneaux aussi colorés. Et en plus, sur ce projet d'Herbatactique, on a aussi... la participation de la régie de quartier Noailles-Belzins qui travaille étroitement avec nous pour la construction et la maintenance, donc l'entretien des mobiliers une fois leur livraison.
Ok, oui, du coup, donc, ce sont des personnes en insertion professionnelle qui vont venir faire la maintenance. Donc s'il y a des choses à réparer, est-ce que ça arrive fréquemment d'ailleurs que les mobiliers soient dégradés ?
Je sais pas si c'est fréquemment.
Moi, j'ai l'impression que c'est pas très fréquent par rapport aux craintes exprimées lors des ateliers, justement, où il y a beaucoup cette crainte parce que le bois, c'est souvent un matériau qui semble pas solide, quoi. Et du coup, il y a beaucoup cette crainte exprimée. Et finalement, je trouve qu'il y a peu de réparations à effectuer. Et ça arrive, effectivement, une planche à changer ou effectivement, un coup de peinture à remettre. Mais j'ai l'impression que c'est
plutôt respecté,
ouais,
au final.
Ouais, complètement.
Oui, c'est ça, un petit défaut dans le matériau d'origine, c'est pas très grave, on peut changer une planche, comme tu dis. Et après, quand même, mine de rien, je trouve qu'il y a l'un des vrais risques pour nos mobiliers, en fait, c'est les véhicules. C'est parce qu'on est sur des espaces qui sont normalement privilégiés pour les piétons, mais bon, il y a toujours un moment, sur une place, par exemple, en fait, où il y a un marché, il y a des véhicules qui circulent et...
D'accord.
Il suffit qu'il y ait une mauvaise manip et puis voilà.
Ok, quand tu disais véhicule, j'étais, mais est-ce qu'elle parle de voiture ?
Oui.
Mais non,
ouais,
en fait,
voiture.
C'est pas juste les scooters, non, c'est vraiment les petites camionnettes, etc., qui vont risquer d'accrocher. Ok, j'avais pas ça en tête. Et aussi, là, que tout à l'heure, quand tu parlais des habillages qui sont faits au sol, donc avec le jaune sardine, des couleurs et tout ça, il me semble que vous travaillez beaucoup avec les écoles, justement, pour les inclure.
Sur le riz des enfants, c'est le public privilégié en fait de ces programmes. Donc nous, on travaille pas mal avec eux. Il y a toujours en fait un moyen de soit une classe qui est volontaire, ou alors les délégués de l'école. Quand toute l'école a envie de participer, il y a le groupe de délégués qui permet de faire en sorte que cette participation soit équitable entre toutes les classes. Et donc ça, peut-être Elsa, que tu peux mieux parler de comment on travaille avec eux.
Oui, effectivement, sur chaque projet, mais même pas du coup que les rues aux enfants, mais aussi sur les places, il y a des chantiers participatifs qui sont organisés pour faire la continuité aussi de ces ateliers. L'idée, c'est que si on a travaillé avec une place sur des enfants sur la conception des aménagements, qu'ils puissent aussi participer à la construction et voir un projet aussi de A à Z. Et donc... quand ça va être avec une classe, on va travailler le temps d'une demi-journée sur le chantier et ils vont pouvoir expérimenter la visseuse,
les outils,
comment ça fonctionne. On va pouvoir leur expliquer aussi plus en détail comment est-ce qu'on construit les mobiliers, comment ça se passe. Et donc c'est aussi une sensibilisation au chantier, quoi.
Oui, j'imagine qu'il doit y avoir un petit côté fierté de c'est moi qui l'ai fait après coup, ce qui participe peut-être à aussi une bonne utilisation des modules, à faire en sorte que ce ne soit pas abîmé par la suite. Bon, même si je ne sais pas si les tout petits enfants auraient la capacité de les dégrader, mais oui, j'imagine que ça permet aussi de prendre conscience de l'espace urbain qui est autour de leur lieu d'école, quoi.
Bah oui, et puis ça participe aussi au fait d'avoir une plus grande place pour les enfants dans la ville, parce que souvent les espaces urbains sont très peu pensés pour les enfants. Et donc là, en proposant des mobiliers où ils ont aussi pu participer à la construction et à la conception et tout ça, ça permet de leur redonner une place dans la ville. Ok. Et alors justement, j'aimerais bien savoir un peu plus sur comment vous menez les ateliers. Enfin, on a compris du coup ce que tu nous expliquais avec les bureaux de rue, les maquettes et la restitution. Après, moi, ce que je me demandais, c'est comment vous arrivez vraiment à rentrer en contact avec eux, à faire en sorte de qu'ils vous parlent, qu'ils soient enclins à donner leurs avis. Est-ce que vous avez des bonnes pratiques pour rentrer en contact avec eux?
Je dirais que la meilleure pratique à avoir, c'est essayer de se mettre à leur faire parler de leur quotidien, en fait. Est-ce qu'ils passent par l'espace? Est-ce qu'ils s'arrêtent sur l'espace? Et dès qu'ils nous avancent quelque chose, d'essayer aussi d'arriver à les faire parler. C'est pas projeté forcément quand on va nous dire « moi, j'aime bien m'arrêter ici ». C'est essayer de dire pourquoi. C'est pour un rendez-vous, pour attendre quelqu'un, pour garder son téléphone, pour attendre le bus. Et finalement, c'est aussi pour essayer de vraiment bien comprendre dans quel mécanisme, en fait, ils vont utiliser l'espace et quels sont leurs besoins, quels sont leurs envies. Parce qu'en fait, finalement, ils vont arriver à en parler naturellement. Mmh. Mais au début, ils sont toujours un petit peu surpris. Ils se demandent pourquoi est-ce qu'on leur demande de participer. Et ils considèrent que nos idées sont les meilleures, alors que ce n'est pas forcément vrai. Mmh. Mais c'est ça qui est assez intéressant, d'essayer de vraiment... pas jouer l'idiote, mais de demander d'expliquer tout le temps.
Mmh. Ah oui, comment ça, pourquoi? Ouais.
Ah oui, ok. Donc ça, et même si on nous a déjà dit la même chose avant, en fait, pour être sûr que c'est le même avis qu'on entend.
Ah oui, de confirmer, d'aller tirer le fil et peut-être qu'en fait, on va découvrir c'est peut-être pas que la même derrière, raison. Il y a autre chose.
Mmh. Si j'ai peur que ça soit squatté, ah oui, par qui, comment, à quel moment, le jour, la nuit. En fait, ça se trouve, ça va pas être du tout la même crainte que le voisin.
Une amie qui était dans, m'a parlé d'une technique que je trouve très intéressante pour justement faire parler les habitants et les habitantes. Elle, c'était plutôt dans un contexte d'élection municipale. C'est la technique de deux oreilles, une bouche. C'est-à-dire deux tiers du temps, on écoute et un tiers du temps, on parle justement pour relancer la personne. Je trouve que c'est une technique assez mémotechnique.
Ouais. À essayer.
Et aussi, en préparant cette émission, on a pas mal parlé de la place de la Providence, qui est la place à laquelle tu faisais allusion, Elissa, quand on parlait justement du programme Prenez Place à Belzins, qui est situé derrière la bibliothèque de l'Alcazar, assez emblématique pour le cabanon vertical, mais en général pour Marseille. Du coup, Adèle, est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette place et comment le cabanon vertical est intervenu?
Alors ce projet, c'est un projet déjà qui est commandé par la Soleam, donc l'aménageur de la métropole, à la différence de l'Urba Tactique qui est vraiment ces villes de Marseille. Donc c'est un marché public auquel on a répondu en groupement. Parce que là, l'objectif de notre équipe, c'était de réaménager complètement la place, de manière définitive, enfin, en tout cas, la place. En tout cas, à l'époque, c'était un parking. Donc, c'est d'en faire une véritable place, mais de manière définitive. Et du coup, on a répondu avec l'agence de paysagistes APS, qui sont basées à Valence. Pour ceux qui sûrement ne connaissent pas, c'est ceux qui ont fait la Plaine, qui ont fait également les Jardins du Mucem. Donc c'est une agence qui connaît déjà le système marseillais, qui connaît aussi ses acteurs et qui a déjà travaillé sur le terrain. Donc c'est aussi agréable de travailler avec eux parce qu'ils sont capables de bien comprendre tout de suite les enjeux du territoire. Mmh. Et donc nous, on intervient avec eux pour cette première phase qui était demandée dans le marché, une phase d'urbanisme transitoire qui avait pour but de préfigurer la place à venir. Parce que, comme je le rappelle, à l'époque, la place de la Providence s'appelait place de la Providence et pourtant c'était un parking clos. Donc on ne pouvait même pas traverser l'espace. Mmh. On devait le contourner. Et donc c'était ça donc, notre mission principale de mettre en place ce processus pour expérimenter des usages de place. Et de pouvoir aussi améliorer, amener des compléments dans un projet définitif qui va être construit au fur et à mesure.
Ok. Et donc on entend qu'il y a plusieurs étapes dans ce projet. La première étape pour vous, ça a été de d'aller à la rencontre des habitants, mais pas que aussi, des commerçants.
Ouais.
Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé?
Avant de répondre à ce marché et d'avoir du coup l'opportunité de travailler dessus. On a commencé à travailler en 2024. Oui, 2024. En fait, c'était déjà en discussion entre la ville, la métropole, de fermer le parking et d'en faire une place depuis déjà plusieurs années. Ce n'est pas un projet qui était tout nouveau. Il y avait eu la DEUS, une agence qui avait travaillé sur la programmation de l'espace. Donc vraiment, qu'est-ce qu'on y mettrait si ce n'était plus un parking, et qui avait fait cette programmation de manière concertée et qui avait travaillé donc avec les écoles, les commerçants, et était ressorti deux versions très, très différentes, deux visions différentes de la place. D'un côté, les commerçants, donc Belzins, qui est un quartier de grossistes, en fait, beaucoup de rez-de-chaussée sont des showrooms. Mmh. Et donc, eux souhaitaient vraiment que ce parking reste parce que ça était soi-disant un vrai moteur pour leur activité économique. Et de l'autre côté, on avait vraiment les habitants, les écoles qui étaient pour en fait retrouver un espace dédié aux piétons, un espace végétalisé, agréable, mettant l'enfant au cœur de la ville, ce qui manque cruellement à cet endroit-là. Et nous, on arrivait dans ce contexte-là, Cabanon Vertical. Donc en 2024, ça faisait 2 ans que plus personne n'avait entendu parler de l'actualité du projet. Tout le monde pensait que c'était un peu arrêté. Et en fait, on a fait un premier atelier bureau de rue, comme l'a expliqué Elsa. Donc on arrive sur l'espace et on reprend la discussion. Et on a été accueillis par, bien sûr, les commerçants pas très contents, plutôt assez remontés, qui avaient préparé des banderoles. Les habitants ne veulent pas d'un parc, ils avaient dit. Ne veulent pas d'un parc, on veut un parking. Et c'était vraiment littéralement ce qui était écrit.
C'était écrit sur leur banderole, sur les habitants.
Les habitants.
En tant que commerçants.
Mmh. Et c'est ça qui était, je pense, un peu en défaveur pour eux. C'est qu'il y a des habitants qui sont venus aussi. C'était toute une après-midi, donc on avait communiqué auprès un peu de tout le monde aussi, comme l'expliquait Elsa. Et en fait, il y a un moment où on s'est retrouvés avec deux groupes qui aussi, eux, débattaient de manière assez vive, hein, quand même. Mais toujours dans le respect quand même des différents avis. Et nous, Cabanon Vertical, on a plutôt été en fait observateurs et on a plutôt écouté parce qu'il y a eu les vrais habitants, entre guillemets, qui disaient oui, mais nous, on veut quand même en fait cette place. Mmh. On n'est pas d'accord et vous ne pouvez pas porter la voix des habitants, de tous les habitants en tout cas. Et donc, je pense que ça a été le moment où ils ont compris que l'interlocuteur, s'il voulait réclamer encore un parking, c'était plus nous. Nous, on avait pas de pouvoir là-dessus. Et donc, aux autres ateliers, on a eu 3, ils ne sont pas revenus.
D'accord, ok. Ah, donc là, après, vous aviez juste en discussion avec les habitants et les habitantes.
Ouais. Voilà, majoritairement, il y avait quand même des grosses craintes et aussi des personnes qui étaient pas contre, mais qui avaient des grosses craintes et qui pouvaient du coup préférer le parking à un projet de place par rapport à ces craintes.
Et quelles étaient ces craintes ?
Le quartier de Belzins, notamment avec le projet de la place Louise Michel, qui n'avait pas très bien été accepté, assez aussi monopolisé par les réseaux de drogue. Mmh. Et c'est de la grosse crainte qu'il y avait sur la place de que en fait, ça devienne un nouvel endroit où en fait, les habitants ne sont pas les bienvenus.
Okay.
Et où on n'a pas envie d'emmener ses enfants. Mmh. Plus du squat, enfin voilà, comme la situation de Belzins, quoi.
Ouais. Et alors, du coup, à quoi ressemble la place aujourd'hui, maintenant que vous avez livré les aménagements et que la première phase transitoire est accomplie ?
C'est très marrant parce que c'est souvent un peu, un peu déroutant quand on entend les échos de cet état actuel de la place de la Providence, qui est une place en fait en phase transitoire. On a 4 mobiliers avec des pergolas qui permettent d'offrir un peu d'ombrage sur un sol qui est plutôt très brut, un mélange de goudron, de terre, qui sont le résultat de... parce qu'il y a eu des fouilles archéologiques préventives, donc ils ont été obligés de défoncer le sol avant notre intervention. Et donc tout ça, ça fait un petit peu un mélange aussi de vide, parce que la place est énorme, on se rend compte l'espace est très grand, on a ces 4 mobiliers. Et donc ça surprend un peu les gens.
D'ailleurs, vous avez intégré des pierres issues des fouilles archéologiques au mobilier. Ça, c'était un choix aussi du Cabanon Vertical.
C'est une opportunité, en fait. Comme nos démarches, elles travaillent aussi avec l'existant. Quand on faisait les ateliers, en fait, on avait les yeux sur ces pierres qui sortaient du sol, tout comme les habitants. Et à la fois, on nous interrogeait, comme c'était, on était sur l'espace, on nous interrogeait sur qu'est-ce que c'était. Bon, on n'était pas les services de l'INRAP qui faisaient les fouilles à ce moment-là, donc on ne pouvait pas répondre. Mais on a aussi porté ce message des habitants qui étaient curieux, qui voulaient comprendre et qui trouvaient ça très beau, que c'était une partie de l'histoire de la place. Et nous, on a sauté sur l'occasion pour dire, mais en fait, si ça a une valeur à vos yeux, peut-être que ça vaut le coup de le garder dans le projet, en tout cas dans le projet transitoire. Et on a demandé l'autorisation pour les utiliser, et on l'a eu. Mmh. Et c'est...
Ces pierres datent de quand ?
Elles ne sont pas si vieilles. Hein. Mmh. C'est un ancien mont de piété de 19e siècle qui, en fait, avant d'être un parking, c'était un îlot bâti. Et cet îlot bâti a été détruit pendant la Seconde Guerre mondiale.
D'accord.
Et en fait, ils n'ont jamais reconstruit.
Ok. Mmh.
Mais du coup, ça a amené à un projet qui s'est aussi construit avec ces pierres. Et nous, pour nous, c'est un usage un peu fonctionnel. Ça nous permet de lester l'immobilier, donc en fait de les faire tenir. Et en même temps, on a sentiment d'appartenance. Et je pense que les habitants se sentent aussi plus en connexion avec le passé de la place.
Mmh.
Et ça donne aussi un petit peu une valeur identitaire à cet endroit.
Oui, qui maintenant est devenu donc un point de rendez-vous. C'est ce dont on parlait juste avant. Est-ce que tu
ça
peux
fait
nous...
bah, du coup un an et demi bientôt que la place est en phase transitoire et c'est la fin. Et pour nous, c'est un peu un succès quand on regarde, par exemple, en septembre dernier, lors des rassemblements un peu bloquant tout là, dans toute la France. En fait, la place de la Providence a été un point de rassemblement, d'échange démocratique. Et donc, pour nous, c'est vraiment le succès. C'est-à-dire qu'on aurait pu laisser l'espace fermé pendant toute cette phase de décision d'un projet définitif. Et en fait, en l'ouvrant, on ouvre la porte à déjà l'intégrer dans une vie de quartier, voire une vie de ville. Et c'est une chance que ça ait bien fonctionné.
Ouais. Oui, bah, c'est devenu maintenant une place très centrale et iconique pour les Marseillais et Marseillaises. Bah, merci beaucoup. En tout cas, c'était hyper intéressant de revenir sur cette place de la Providence. Le temps passe. Et pour terminer cette émission, j'aimerais que nous nous projetions dans un futur désirable. La Forêt des Possibles aime bien se projeter dans une société qui aurait réussi sa transition. Donc, nous voilà en 2050. Et qu'est-ce qui a changé dans le quotidien des gens avec le prisme du cabanon vertical que vous avez?
Pour nous, dans 20 ans, les espaces publics seront super qualitatifs. Et donc, ce sera des espaces apaisés, conviviaux, où on peut être à l'extérieur et pouvoir se retrouver et vivre vraiment dehors, quoi.
Okay. Comme la place de la Providence.
En mieux.
En plus végétalisé.
En plus végétalisé.
D'accord. Et alors, quelles seraient les nouvelles pratiques, rituels, habitudes qui surviendraient dans 20 ans ?
Que l'urbanisme transitoire soit inclus quasiment automatiquement dans des projets de réaménagement urbain et aussi que le réemploi soit beaucoup plus inclus dans ce dynamisme-là.
Comme le réemploi des fouilles archéologiques.
oui.
Il y a d'autres matières que vous réemployez au sein du cabanon vertical?
On pourrait réemployer du bois, mais c'est toujours une question de durée, en fait. Si le matériau, ouais, il a déjà eu une vie avant, combien de temps il va durer? Il y a surtout, plutôt, je dirais, des ressources qui sont toujours dormantes, un peu... je sais que sur un projet à Bordeaux, sur la Bordeaux Métropole, donc la métropole de Bordeaux, a des stocks. Pourquoi pas, en fait, finalement, y avoir accès?
Ouais. À condition que le trajet soit intéressant sur le plan
d'un carbone. Ce serait sur Bordeaux, ouais, du coup. Oui, il faudrait qu'on ait la même chose ici.
Et dernière question, si on se remet dans le présent aujourd'hui, quelle action on peut faire dès aujourd'hui?
On continue à s'engager parce que Marseille, c'est quand même une ville extrêmement engagée dans beaucoup de structures associatives. Et surtout, nous, on a besoin de plus de monde dans les CIQ, dans les comités d'intérêt de quartier. En fait, c'est des assos dans chaque quartier qui te permettent de promouvoir et de défendre les intérêts du quartier, qui sont assez reconnus par les élus de secteur. Et en fait, aujourd'hui, on n'a que les mêmes personnes dans les CIQ et on pense que si vraiment bah, on pouvait avoir une vraie diversité d'habitants et d'habitantes représentées, bah, peut-être qu'on pourrait aussi avoir des projets avec des projets qui soient portés, qui soient plus collectifs.
Et plus inclusifs et plus représentatifs. Voilà. Donc le message est passé, surtout en période électorale. Allez infiltrer vos CIQ. Et ben merci beaucoup pour cette émission, Elsa et Adèle. On va rendre l'antenne en vitesse. J'en profite pour remercier du fond du cœur toute l'équipe de La Forêt des Possibles de m'avoir permis d'animer toutes ces belles émissions au gré des mois et des semaines. Et je leur souhaite de très belles aventures radiophoniques.
Merci beaucoup, Claire.
Merci, Claire.
Merci.